Nous accueillons Samira au 3921. Bonsoir Samira.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien, merci.
Bon, voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi.
Alors, moi, aujourd'hui, j'avais envie d'exprimer ma grande satisfaction après 4 années d'expatriation. Donc, je suis belge, installée à Paris.
Oui.
Et malgré toutes mes appréhensions au départ, ça m'a apporté énormément. Énormément de choses. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager un bout de mon parcours. Peut-être que ça inspirera certaines personnes, d'autant plus que nous vivons dans une époque où il y a quand même pas mal d'incertitudes. Enfin, on a quand même pas mal peur.
Oui, vous avez raison.
Oui, et du coup, voilà, si mon expérience peut
inspirer.
Oui, exactement.
Alors, c'est plutôt extrêmement positif d'avoir décidé de nous appeler pour évoquer justement cette expatriation depuis 4 ans, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Parce que c'est vrai que la France et Paris, particulièrement, a plutôt une mauvaise image. En tout cas, on peut appréhender de venir habiter à Paris. Or, vous êtes la preuve vivante que les choses peuvent bien se passer si on décide quand même qu'elles vont bien se passer, non ?
Et en plus, symboliquement, je suis venue m'installer à Paris pratiquement un mois après les événements malheureux, désastreux, donc au Stade de France, les attentats, etc.
Oui.
Et là, pour moi, c'était encore plus... Voilà, je me suis dit, je sens que je dois le faire, je vais le faire et on ne me terrorisera pas.
Oui, et en fait, vous avez dû arriver dans un Paris... qui avait relevé très vite la tête. Hein. Je ne sais pas, vous allez me livrer votre ressenti. Mais je pense que vous êtes arrivé à un moment où les Parisiens montraient combien la peur devait changer de camp et combien il était hors de question de céder à cette peur et à ceux qui essaient de nous terroriser en permanence.
Exactement.
Comment vous avez trouvé Paris à ce moment-là ?
Alors, Paris m'a attiré comme un aimant. Donc, ça, c'est déjà très positif.
Oui.
Mes premières impressions, parce que j'ai 50 ans et je n'étais jamais venue à Paris. Je suis passée par Paris, mais je n'avais jamais visité pour une raison X ou Y. Donc, mes toutes premières impressions, c'était ici, tout est possible.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a décidé et amené à Paris ?
Alors, j'étais donc à Bruxelles, j'avais fait un burn-out qui était assez terrible.
Oui.
Et donc, j'ai donc élevé mes 3 enfants et beaucoup, beaucoup aidé mon ex-mari. Tout s'est toujours super bien, enfin la maison tournait bien, les enfants étaient impeccables, bien scolarisés, etc. Sauf que moi, j'allais très, très mal. Et c'était aussi par rapport à un décès donc d'un de mes frères dans un terrible accident de voiture. Et là, tout à coup, je me suis dit, je vais arrêter de me mentir. Il faut que j'arrête le mensonge. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je suis asphyxiée. Je ne veux pas prendre de médicaments. Donc, quand j'ai été voir un psychiatre qui m'avait proposé
un protocole.
Exactement. J'ai refusé. Et j'ai bien eu raison de refuser. Pourquoi ? Parce qu'en changeant d'environnement, ben je suis sortie de mon carcan, je me suis débarrassée de mon carcan et j'ai été une surfemme, quoi. Enfin, je ne me reconnaissais même plus dans mon attitude et dans ma capacité à vivre. Parce que la vie, c'est ça, hein, c'est de... Donc pour ça, effectivement, j'ai eu le courage, parce que beaucoup de gens diraient que j'ai abandonné mes enfants, loin de là. J'ai fait une demande de divorce. J'ai été extraite de la structure qu'on avait mis en place, mon ex-mari et moi. Mes enfants y étaient bien, mon ex-mari aussi. Mais moi, en me retirant de là et en changeant de milieu, j'allais beaucoup mieux, j'ai entrepris beaucoup de choses et du coup, j'ai aidé mes enfants à distance.
Oui. Quel âge avaient-ils, les enfants ?
Alors, à l'époque, je vais faire des calculs parce que mon grand a 21 ans, donc moins 4, ça fait 17 ans. Du coup, il y a 5 ans de différence entre eux, donc on va dire 17, 12 et 7, 8 ans. Ouais,
D'accord,
8 ans, oui.
d'accord.
Alors, pourquoi être parti? Être partie donc alors que mon plus jeune avait 8 ans, c'est parce que je n'ai pas mis mes enfants en crèche, je les ai éduqués à la maison
Oui.
et j'avais fait le choix à l'époque de les scolariser à l'âge de 5 ans. Et ce qui s'est passé, bon, parce que j'ai fait une thérapie et j'ai compris le pourquoi du comment, quand mon troisième enfant a dépassé les 5 ans, a été scolarisé, j'ai eu précocement le syndrome du nid vide.
Qu'est-ce que c'est que ce syndrome?
Ben en fait, vous avez l'impression, vous, papa ou maman, que vos enfants n'ont plus besoin de vous, qu'ils sont
Oui,
autonomes, et du
oui.
coup, vous êtes vide.
D'accord. Vous aviez déjà entendu parler de ce syndrome avant ou c'est
Non, j'ai
non?
pu mettre un mot grâce à une thérapeute, en fait, qui l'a identifié. Et donc, comme ça correspondait avec on va même dire une ménopause précoce.
Oui.
Donc, l'un dans l'autre, l'effet des hormones, les enfants qui, quelque part, commencent tout doucement à voler de leurs propres ailes, puis moi qui me demande, je vais dire les choses, comment je vais dire, le plus simplement du monde, je me demandais ce que je foutais là.
Oui. Bah, vous avez sans doute écouté le témoignage de Catherine juste avant vous
Oui.
et cette question métaphysique, mais ô combien importante de qui suis-je? Et vous êtes un peu tombé dans ce type de quête aussi, non?
Oui, d'autant plus que le décès de mon frère qui avait 36 ans, donc qui est disparu du jour au lendemain d'un accident de voiture,
Oui.
est arrivé à ce moment-là. Donc je me suis aussi re-questionnée sur tout ce qui est existentiel, donc
Oui.
étant musulmane de confession, donc au départ, eh bien j'ai eu un rejet de ma religion à ce moment-là.
Oui.
Ouais,
En
j'ai eu un...
colère. En colère contre Dieu.
Oui, et puis je ne pouvais plus me satisfaire de ce que l'islam pouvait me procurer à ce moment-là. En tout cas, pour moi, c'était pas consistant. Oui.
Vous y êtes revenu depuis?
Alors, je peux dire que je suis en cheminement entre guillemets spirituel, mais j'ai
Oui.
décidé de ne plus appartenir à un groupe, à une
Une confession,
idéologie.
ouais.
Oui. Donc je veux avoir mon libre arbitre et même dans ma relation de couple, je ne veux plus appartenir à qui que ce soit, je veux être libre et indépendante. Et c'est une réussite.
Alors dites-moi, en quoi c'est une réussite? Ça m'intéresse beaucoup.
Voilà, alors c'est une réussite. Pourquoi? Parce que je ne vis plus dans le mensonge. Parce que j'ai malheureusement, quand j'étais à Bruxelles, il y avait beaucoup de faux-semblants. Il n'y a plus de tabou.
Oui.
Et du coup, moi, on dit que la parole libère. Oui, j'ai eu l'occasion de parler à des psys, etc. Ça m'avait pas mal aidé. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a libérée, je vais même dire qui m'a sauvé la vie, c'est l'action. C'est le fait de poser des actes forts, de les assumer,
Oui.
et que ces actes soient en concordance avec qui vous êtes. Il n'y a pas de dissonance. Et c'est vrai que c'est parce que j'avais fait un travail sur moi bien en amont que la décision de quitter Bruxelles pour Paris, quelque part, c'était un saut en parachute, mais c'était quand même quelque chose de travaillé.
Oui, parce que ça devait être le fruit d'une réflexion, un recommencement, cette nouvelle Samira, en tout cas cette nouvelle Samira, pas cette nouvelle Samira, mais en tout cas tous les avancements, hein, toute cette réflexion que vous aviez menée autour de vous, et avec cette réflexion, le fait de sauter en parachute en arrivant à Paris, c'était sans doute quelque part vous mettre en danger, un défi, c'est comme un défi que vous vous êtes lancé.
En fait, c'était déjà j'étais dans le sauf qui peut, comme
Quand
si
qu'entendez-vous par là, dans le sauf qui peut?
ben, le sauf qui peut, c'est-à-dire que la structure dans laquelle j'étais, donc structure de couple, de famille,
Ouais.
même sociale, hein, même sociale, familiale aussi, communautaire, faisait qu'à un moment donné, j'étais tellement asphyxiée, j'étais tellement, le carcan était tellement, c'était tellement endurci et m'empêchait tellement de bouger, de respirer,
Ouais.
que je vous dis honnêtement que si j'étais restée, je pense que je ne serais plus de ce monde. Ouais.
Ouais, je
Ça ne veut
vois.
pas dire que j'aurais tenté à mettre fin à mes jours. C'est pas, je n'aurais pas eu cette attitude-là pour plein de raisons. Par contre, physiologiquement,
Vous seriez sans doute tombé malade, en fait.
oui, il y a quelque chose qui se serait. Maintenant, j'ai pas envie qu'on parle de ça parce qu'on va s'éloigner
Oui, complètement,
du
complètement.
truc. Mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvée face au médecin qui m'a dit, voilà, là, vous êtes à un stade où vous êtes vraiment à la limite, quoi. Vous pouvez basculer d'un moment à l'autre, d'autre côté, quoi.
Alors, justement, ce parachutage à Évreux, comme à Évreux, pardonnez-moi, à Paris,
Oui.
comme vous l'appelez, quel sens il revêtait à l'époque, au moment où il y a 4 ans, vous faites ce grand saut? Qu'est-ce que
Alors,
vous en
comme.
attendiez exactement?
Oui, eh bien, du coup, comme je vous dis que la première impression que j'ai eue, c'était tout, ici, tout est possible,
Oui.
tout est réalisable. Donc, j'ai ressenti une confiance en moi que je n'avais pas quand j'étais à Bruxelles. Et l'envie de découvrir et aussi le fait que j'étais prête, comment dirais-je, à aller vraiment puiser dans mes, comment dirais-je, dans ma trésorerie, si vous voulez,
Ouais,
dans,
ouais.
oui, dans ce que j'ai de meilleur en moi
Mmh.
pour réussir. Et quelque part, je me suis dit aussi, en me sauvant, je vais sauver mes enfants.
D'accord.
Même.
Vous leur avez expliqué avec vos mots tout ça?
Alors, mes enfants, au début, quand je suis partie, m'en ont beaucoup voulu,
Oui.
tous les trois.
Mmh.
Donc, ils m'en ont voulu, mais ça a toujours été clair, ils me l'ont exprimé, etc. Et je n'ai jamais cherché à discuter avec mes enfants pour leur démontrer, enfin, je veux dire mentalement, de leur démontrer qu'ils avaient tort et que j'avais raison et qu'il n'y avait pas de raison de m'en vouloir.
Oui, parce que personne n'a tort et personne n'a raison dans cette histoire.
Exactement, oui. Et en fait, en voyant que je m'épanouissais, donc parce qu'on j'allais leur rendre visite et ils venaient me rendre visite, quand ils ont vu la transformation, parce qu'elle s'est quand même opérée assez rapidement et elle était très perceptible, quand mes enfants ont vu, ils ont compris.
D'accord. Quelle chance qu'ils aient. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'amour.
Oui, mais je pense que les 5 années que je leur avais consacrées, donc au niveau éducatif, bon, je les ai allaités, etc.
Oui.
Enfin, bon, bref, il y a plein de choses que je les aimais à ma manière et je les aimais sincèrement. Donc, c'était
Oui.
un amour inconditionnel. Et je pense que je crois beaucoup au karma. Ce que vous semez, vous le récoltez. Peut-être pas du tac au tac, mais il vient un moment où ça vous revient. Et j'ai eu raison de ne pas me braquer. Et de ne pas comment d'avoir laissé mes enfants m'en vouloir et de laisser mes enfants comprendre par eux-mêmes.
Oui. C'est formidable ce que vous dites. C'est
Oui.
formidable. Parce que vous avez laissé, quelque part, vous avez fait confiance à la vie, confiance à votre trésorerie, en fait. Hein,
Oui.
comme vous, et finalement, vous avez. J'ai l'impression que vous avez balayé tout ce qui pouvait vous parasiter à ce moment-là et qui
Oui.
pouvait faire justement. Court-circuit avec vos propres enfants. Je pense que si vous n'aviez pas agi de la sorte, c'est-à-dire que si vous aviez continué dans les faux-semblants, en tout cas si vous aviez injecté
Dans le
un tant
mensonge.
soit peu de faux-semblants pour, comme parfois on fait, hein, parfois on met des faux-semblants pour ne pas faire de mal aux autres, hein, pour aller dans leur sens, pour arrondir les angles. Finalement, on fausse totalement.
Oui, parce
On
que la
fausse les choses.
communication, oui, parce qu'alors moi je pars du principe qu'une relation, enfin ce qui fait l'oxygène d'une relation, c'est la communication. Donc communiquer, voilà, quand on communique, on fait passer de la vérité, même si elle est difficile à entendre,
Ouais.
même si la personne qu'on a en face de nous, on aimerait la transformer, non, il faut bien la regarder telle qu'elle est et bien entendre ce qu'elle accepte de nous envoyer comme message. Donc, à partir de là, c'est vrai que je suis super fière de mes enfants et de cette qualité relationnelle que j'ai avec eux aujourd'hui, que je n'aurais pas eue si je n'avais pas fait le chemin que j'avais fait. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'en thérapie, on m'a fait découvrir l'analyse transactionnelle.
Qu'est-ce que c'est, Sarah, l'analyse transactionnelle ?
L'analyse transactionnelle, donc les thérapeutes avec lesquels j'ai travaillé, vous font aller rechercher des schémas qu'avaient vos grands-parents et vos arrière-grands-parents.
D'accord.
Et donc, comme dans ma famille, j'ai pu, en posant quelques questions par-ci, par-là, avoir un puzzle sur lequel j'ai pu m'appuyer en thérapie, j'ai vu que dans ma famille, côté maternelle et paternelle, il y avait des schémas qui avaient tendance à se reproduire. Et comme ces schémas-là étaient quand même assez lourds de conséquences, oui, puisqu'il y a eu énormément de décès dans ma famille côté maternelle et paternelle, des décès tragiques, comme des accidents de voiture, comme des, comment dirais-je, voilà, des personnes mortes au combat et des choses comme ça.
Oui.
On a pu, avec le thérapeute, aller épingler des mécanismes qui faisaient qu'on était dans une spirale, qui justement faisait qu'on se jetait littéralement dans le mur, quoi.
Oui, oui.
Et j'avais aussi cette tendance
d'autodestruction, ouais, ouais, de sabotage.
Oui. Ouais. Je me sabotais toute seule et surtout je m'empêchais d'être heureuse. Et si j'avais le malheur d'être heureuse, je culpabilisais. Donc j'étais vraiment dans une et je ne voulais pas que mes enfants aient ce fardeau et le transmettre de nouveau à leurs enfants.
Mmh. Et c'est quelque chose que vous avez découvert avec le psy, ça, cette analyse transactionnelle, c'est...
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Donc parce que parfois, vous allez voir un psy qui vous envoie chez un autre psy.
Oui.
Il n'y a pas ce lobby, voilà, vous n'êtes pas un client. Vous êtes quelqu'un qui cherchait à aller mieux et qui... Enfin, on parle beaucoup de cheminement, en tout cas en Belgique. Il y a ce développement personnel qui est en... pas mal exploité en psychologie.
Ouais.
Et donc, du coup, les psys, en tout cas ceux qui sont reconnus, n'hésitent pas à vous envoyer chez un de leurs confrères.
Et ça, c'est génial parce que ce à quoi vous faites allusion paraît tellement simple. C'est de ne pas reproduire les mauvais schémas. Hein. Normalement, on doit s'inspirer de nos anciens.
Tout à fait.
S'inspirer de leur réussite, mais aussi de leurs erreurs. Et, j'ai envie de vous dire que j'ai fait l'expérience il y a quelques temps de parler de ma famille, de parler des erreurs ou des comportements que je considérais, moi, menant à des conflits, menant à des choses peu productives finalement. Et là où vous conviendrez sans doute que c'est difficile, c'est qu'il faut que tout le monde adhère aussi à ce que vous prenez là. Et quand je vous disais que vous aviez eu de la chance, parce qu'il y avait sans doute beaucoup d'amour et un amour très charismatique entre vous et vos enfants, c'est à cela que je faisais allusion. Parce que il faut, encore faut-il dans tout ça que tout le monde sente où vous voulez aller.
Alors, vous savez que ces thérapies m'ont permis de divorcer avec mon mari sans qu'il y ait le moindre conflit.
Mmh.
Et j'ai offert la possibilité à mes enfants, puisque quelque part, ils avaient le choix. Donc, je ne leur ai pas dit « restez là » ou « venez », etc. Ils avaient le choix. Et je comprends qu'ils soient restés à Bruxelles. Le fait de ne pas les avoir privés de leur père, c'est ce qui a fait de moi une mère qui a été respectée par ses enfants.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez impliqué personne dans votre décision, la décision qui était pour vous, en fait. Hein. Même si, bien évidemment, en tant que maman, vous aviez une responsabilité. Et je n'ai pas entendu une seule seconde que vous aviez cessé d'assumer vos responsabilités à aucun moment. Mais vous avez fait respecter... votre envie à vous, cette envie de Enfin, votre envie, votre sauvegarde, j'ai envie de dire, ce qui allait vous sauver.
D'autant plus que je pense que ce serait bien que les gens comprennent que quand on va mal et qu'on vit avec nos enfants sont des éponges.
Oui.
Et on les contamine avec un tas de choses, avec des angoisses, avec... Moi, la perte de mon frère, ça a été la perte de mon frère, et c'était la perte de leur oncle. Mais quelque part, ils l'ont vécu comme si c'était leur propre frère. Et ça, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, à un moment donné, pour moi, m'éloigner, c'était en même temps les préserver.
Oui, oui, je comprends. Vous éloignez et menez à bien ce chemin, oui. Ce chemin que vous entamiez, c'était en tout cas les éloigner et ne pas les inquiéter quelque part.
C'était les
maintenir dans un environnement où ils avaient leurs repères, leurs amis, divorcés en toute tranquillité, sans heurts avec leur papa, leur donner le choix.
Oui. Oui.
J'ai envie de vous dire que ça, c'est le. Vous avez mené le schéma idéal que devraient suivre beaucoup d'entre nous et que finalement si peu suivent. Vous voyez ?
Oui, oui, oui.
Alors, dans tout ça, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir un mari compréhensif ou est-ce que lui aussi a été inondé, irradié par, je dirais, par le bon sens que vous dégagiez ? Parce que je crois vraiment, vraiment très fort aujourd'hui dans le fait de quand ça ne va pas, il faut le dire. Vous voyez, quand quelque chose ne va pas, quand on angoisse, quand on sent la pression, il faut le dire.
Oui.
Vous parliez de communication tout à l'heure,
oui.
et ça n'est pas facile. Hein.
Mais vous savez pourquoi ça s'est bien passé avec mon ex-mari ?
Non, dites-moi.
Parce que je ne lui ai jamais menti.
Oui.
Et que même si je lui ai fait mal à un moment donné parce qu'il a dû entendre des choses qui étaient difficiles à entendre et que c'était entre lui et moi, eh bien, c'est vrai que ça lui a fait mal sur le moment même, mais quand on s'est retrouvé devant le juge et qu'on a signé notre convention de divorce, il m'a dit « je ne pourrais même pas t'en vouloir ou te trouver aller un truc qui va pas ou quoi, parce que... t'es juste, quoi. T'as voulu me préserver, t'as préservé les enfants, t'as dit les choses, j'ai pas menti. Et c'est vrai que j'aurais pu faire comme beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, c'est de partir comme une voleuse ou de vouloir m'accaparer les enfants et de l'éloigner. Enfin, il y a un tas de... Et je suis pas du tout comme ça. Donc, je suis contente parce qu'il s'en est rendu compte.
Oui. Et en fait, je suppose... Parce que tout à l'heure, lorsque vous évoquiez les faux-semblants, vous vous rappelez, vous me disiez, voilà, j'étais mal parce que j'ai tout fait, parce que... voilà, le carcan familial, le schéma.
Oui.
Mais est-ce qu'il vous arrivait de mentir là, à ce moment-là ?
Alors, je vais vous dire, c'était à peu près 22 ans de mariage.
Oui.
Donc, je n'ai pas menti. On peut dire que je n'ai pas menti au moment, quand je suis partie. Donc,
quand vous êtes partie, oui. Quand vous êtes partie.
Ouais, donc, les 5 dernières années de mon mariage,
ouais.
On peut dire que je n'ai pas menti. Et là où j'ai fait mal à mon ex-mari, c'est que je lui ai dit sincèrement, je lui ai dit les 17 années qu'on a eues là, c'était
du compromis.
C'était de la comédie.
Enfin,
oui. C'était pas parce que j'étais malhonnête, c'est parce que voilà, c'est un Marocain du Maroc avec la culture arabo-musulmane.
Oui.
On a eu nos enfants, donc j'ai reproduit le schéma comme avec mes parents, donc il fallait faire les choses, etc., dans les règles de l'art, d'un point de vue culturel et religieux. Mais
c'est pas quelque chose qui vous convenait.
Ça me fait mal de le dire à l'antenne, et pourtant je vais le dire parce que c'est la vérité, mais je ne l'ai jamais aimé.
Mais ça n'est pas une surprise. Ça fait peut-être mal de le dire à l'antenne, mais Samira, on peut se douter que lorsque un mari ou une femme nous est imposé parce que religion, parce que tradition, c'est pas une surprise de vous entendre dire « je ne l'ai jamais aimé ». Parce que l'amour, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez le dire aujourd'hui à cette antenne. L'amour, ça ne marche pas comme ça. L'amour, oui. c'est... on sait tous, là, aujourd'hui, dans ce studio, et puis un grand nombre de personnes qui nous écoutent savent très bien que l'amour, c'est, voilà, c'est une étincelle. À un moment, on se plaît, à un moment donné, dans un endroit, et que la tradition, l'histoire, la religion n'a rien à voir avec ça.
Tout à fait.
Et que ce soir, en fait, on peut avoir une pensée pour tous ceux à qui on impose cette liaison assez sauvage, je trouve.
Oui.
Et assez,
contre-nature, moi
contre-nature
je dis
totale.
Oui.
Contre-nature totale. Et là où je vous rejoins, c'est que j'ai moi-même traversé des moments tragiques dans ma vie. Et j'ai été en colère après Dieu parce que j'avais appris une religion avec tout un tas d'imagerie et tout un tas de croyances finalement assez plus idiotes les unes que les autres. Et je croyais à un Dieu horloge, vous voyez, hein, un Dieu
oui.
qui t'as été gentil, donc on va te donner ça. Tu vois, tu te comportes bien avec les autres, donc il peut rien t'arriver. Sauf que rien ne marche comme ça. Dieu n'est pas pour un temps. Si on croit un minimum en Dieu, le chemin que j'ai fait depuis, il est similaire au vôtre. Ma quête de spiritualité, eh bien, elle est très personnelle. Et finalement, je n'ai pas besoin de la relier à un Dieu qui s'appelle Mahomet ou Jésus.
Oui.
Vous voyez, et elle est très intime. Et,
oui.
Et en ça voilà, c'est difficile aussi de l'évoquer en public, ça, parce que on est tellement bassiné.
C'est un peu ce que je vous disais en début, au début, c'est que on est tellement, comment dirais-je, allez, on est censé être terrorisé, voilà. On cherche à nous terroriser avec la politique,
avec la religion.
Avec la religion, avec un tas de choses. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'être humain finit par...
culpabiliser de tout.
En fait, il n'ose plus.
Eh oui.
Quand on a peur, on n'ose plus, on est tétanisé.
Quand on veut être libre, on culpabilise. Quand on veut sortir des schémas traditionnels qu'on a déterminé, défini comme étant le schéma qui est bien, qui est bon, dans les bonnes normes, pour peu que vous en sortiez, vous devenez l'ennemi de tous ceux qui prônent ça. Et puis la société, voilà, avec ses religions, ses politiques, et avec tous ces gens qui nous disent il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Eh bien, vous avez raison, ça fait bon nombre d'êtres humains terrorisés, culpabilisés et qui finissent par mentir.
Oui.
Et se mentir, c'est ça le pire, en fait.
Oui.
Parce que mentir aux autres, bien évidemment, ce n'est pas beau. Mais se mentir à soi, c'est juste d'une tristesse infinie.
Mais puis, Olivier, quand j'ai perdu mon frère en 2011, je me suis dit, mais combien de gens vont mourir ou sont morts sans avoir vécu ?
Oui.
Je me suis faite cette réflexion. Je suis contente pour mon frère parce que il a vécu une vie de dingue. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'épicurien et de...
Un homme libre.
Oui, c'était un homme libre. Il n'était pas du tout dans un schéma de... Il n'y avait pas de carcan.
Ouais.
Donc, même s'il a vécu... malheureusement, il est parti trop tôt, donc il a vécu 36 ans. Je pense qu'il a vraiment vécu intensément. Et il a laissé quelque chose derrière lui. Mais ce départ précipité, je me suis dit, Samy, il y a des gens qui meurent et qui n'ont pas vécu. Et est-ce que toi, tu feras partie de ces gens-là ?
Mmh.
Et je me suis dit, non, il faut que je vive. Et surtout, que mes enfants vivent.
Mmh.
À partir de là, il n'y a plus de débat, etc. Tu fais, tu traces. Et c'est vrai que je ne me suis jamais retournée.
Tu fais ce que tu as envie de faire.
Oui, tout à fait. Ouais. Et sans culpabiliser.
Mmh. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que combien il est difficile de faire admettre aux autres lorsque on a décidé donc de vivre comme ça, de vivre librement. Et librement, veut dire dans la vérité, dans la connaissance de soi-même. En tout cas, comme vous le dites, en se disant « Maintenant, je veux vivre comme j'ai envie de vivre. » Et je n'ai plus envie de vivre parce que, comme ça, parce que je vais, si je vis autrement ou si je fais autrement, eh ben, ça va décevoir telle personne. Je vais rendre triste telle personne. Parce que finalement, j'ai l'impression de croiser toute la journée des gens qui sont comme ça, vous voyez, qui font des compromis en permanence.
Oui, mais d'autant plus, Olivier, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que généralement, les gens, quand ils vous exposent leurs problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit un problème matériel, un problème psychologique ou quoi, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire « je ». C'est-à-dire « je me suis fait voler » ou « je ». Ce sera toujours « on m'a ».
Oui.
Et alors, bon, enfin moi, j'ai l'impression que la vie qu'on a, quelque part, on la génère. Voilà. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont de graves problèmes l'ont cherché loin de là. C'est juste pour dire que quand on a un problème, si on part du « je », on peut plus facilement défaire la bride, enfin défaire le problème et trouver la solution, plutôt que de dire on m'a accablé, on m'a fait ceci, je me suis retrouvée, enfin bon bref.
Se victimiser.
Oui, voilà. Et ça c'est quelque chose, moi en tout cas je l'entends directement quand quelqu'un se victimise et je l'invite souvent à se positionner autrement pour justement... Déjà, pas l'encourager sur cette voie, quoi. Et essayer de lui faire prendre conscience aussi que un petit problème, quand on le nourrit, ben forcément, il va prendre de l'ampleur, quoi. Alors que le but, c'est quand même de le réduire ou de vivre avec. Parce que parfois, malheureusement, il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler comme ça d'un coup de baguette magique.
Bien évidemment. Et je repense à ce que vous me disiez... Lorsqu'on décide de vivre librement, lorsqu'on décide pour soi, lorsqu'on est décidé à dire les choses, vous avez vu comme tout est plus facile, comme tout évolue, en fait. Comme on va vers le haut, vous voyez ?
Oui.
Mais on va vers le haut même dans notre travail, dans nos rencontres, dans... Tout devient plus riche, en fait. Tout devient plus riche. Et... Mais je suis ravi hein, d'échanger avec vous parce que un échange comme celui-là est très rare parce que malheureusement je ressens beaucoup toute cette pression sur la société, toutes ces règles qu'on nous impose, voilà. Et on reparle de la religion, on reparle de la politique, mais regardez combien aujourd'hui on nous impose de plus en plus de... Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre aujourd'hui un retour à l'obscurantisme. Et je ne parle pas là du fameux obscurantisme où on vise une communauté. Non, 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 non. Je ne parle pas de cet obscurantisme-là. Je parle de l'obscurantisme général où les limites sont de plus en plus épaisses. Où dire la vérité devient parfois un danger.
Vous savez, quand la peur... règne, quand c'est elle qui fait la loi, ça ne peut générer que de l'obscurantisme. Et malheureusement, les personnes qui travaillent cette peur, parce que on va pas être paranoïaque, mais on se rend bien compte que il y a comment dirais-je, il y a une politique, il y a un truc en fait qui nous échappe, mais on voit que voilà, ça arrange pas mal de gens qui aient cette peur.
Oui, parce que les gens qui ont peur sont beaucoup plus manipulables.
Voilà.
Et alors,
sans tomber dans le conspirationnisme, etc.
Mais pour en revenir à vous, en fait, votre mari, il a perçu cette vérité, il vous a remercié.
À mon ex-mari, oui. Il m'a remercié et il a même accepté. Il a une très bonne relation avec mon compagnon
d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui.
Donc, mais vous avez dû le faire avancer grandement, votre mari, vous savez. Vous devez le constater, ça, qu'il a dû avancer énormément.
Il s'épanouit. Paradoxalement, autant il était mal au tout début quand il a vu que j'allais prendre une direction qui lui faisait peur. Encore une fois, c'était de la peur. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, je lui ai dit, écoute, il devait avoir 47 ans à ce moment-là. Je dis, vaut mieux, à 47 ans, t'as encore toute la vie devant toi.
Bien sûr.
Que d'avoir une femme à 60 ans qui te dise...
J'ai passé ma vie à ne pas t'aimer.
Oui, voilà. Et à 60 ans, tu vas faire quoi? Et donc, aujourd'hui, en plus du fait qu'il a pu lui-même...
refaire sa vie.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il a accepté mon choix. Il s'entend bien avec la personne qui partage mon quotidien, qui partage ma vie.
Oui.
Et aussi, il a compris que quand on est né dans un pays comme la Belgique, qu'on a été scolarisé dans une structure judéo-chrétienne, et qu'on a entendu parler d'islam la première fois à l'âge de 16 ans, on peut dire que c'était un mariage mixte.
Oui.
C'est-à-dire il y a eu un choc culturel, il y a un moment où le bas blesse.
Oui.
Oui.
Oui, où le bas blesse grandement même.
Oui, oui, oui. Oui. Oui.
En tout cas... Alors, pour en revenir quand même à Paris, parce que nous...
Oui, notre belle capitale.
Oui, votre nouvelle belle capitale.
Oui.
En y marchant, en rencontrant des gens, avec cette vérité qui était en vous, et puis cette harmonie, en fait, hein, puisque vous avez su créer quelque chose de très fluide, hein, je suppose.
Alors, j'ai mis 6 mois pour trouver un premier travail, puisque j'ai prospecté pendant 6 mois et j'ai adapté mon CV. Je suis esthéticienne et le marché de l'emploi parisien est très différent du marché de l'emploi bruxellois. Donc, à Bruxelles, dans le domaine de l'esthétique, on traite beaucoup avec les Flamands. Et à Paris, c'est pas du tout la même chose, que ce soit en institut de beauté ou en parfumerie. Donc, et ça, j'ai adoré. J'ai dû faire un travail d'adaptation.
Oui.
J'ai dû me remettre en question. J'ai dû proposer mes compétences de la façon la plus attractive pour un Paris qui avait des exigences et qui était à la recherche de profils type, on va dire.
Oui, oui.
Et donc, le Paris était loin d'être gagné. C'est un jeu de mots. Donc, le pari était loin d'être gagné,
ouais.
Mais j'ai réussi. Pourquoi ? Parce que ce soit en parfumerie ou en institut de beauté, j'ai cartonné au niveau du chiffre d'affaires.
Mmh.
Ouais. Et quand je m'étais présentée pour l'entretien, les employeurs étaient très, très mitigés. Donc, ils ne le sentaient pas trop parce que... Le côté belge était quand même assez présent et correspondait pas du tout à l'image de marque en fait de l'institut parce que nous à Bruxelles on est très on tutoie facilement, on est très un peu comme si tout le monde était de la famille.
Oui oui, très familier.
Oui.
Moi j'adore hein, donc j'adhère totalement au côté vraiment très cool des Belges. Et en même temps, voilà, il y a vraiment, enfin, je trouve les Belges très très éduqués hein, par rapport à nous. Mais bon, ça c'est mon ressenti. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à Bruxelles. Voilà, les gens sont très très sympathiques très vite, vous aident facilement. Enfin, voilà, c'est l'image que j'ai de Bruxelles. Hein,
mais moi, dans un premier temps, ça m'avait porté préjudice puisqu'en plus il y avait ce petit côté qui apparaissait comme entre guillemets simplet.
Oui oui oui, je vois.
Oui. Et au final, on m'avait pris à l'essai et on s'est rendu compte que quand je travaille et que je suis en contact direct avec, entre guillemets, la cliente ou le client, je vous vois, Mon niveau de langage est correct,
Oui.
c'est-à-dire que j'ai quand même un bagage en vocabulaire. Et surtout, j'arrive à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire que je fais mon travail, quoi. La personne vient, elle est satisfaite de la prestation.
Oui.
Et mon côté sympa, donc celui qu'on pointait du doigt à l'entretien, eh bien, mon côté sympa, c'est le petit quelque chose en plus qui fait que je fidélise les clientes. Oui. Et qui a un, il y a ce côté attachant.
Parce que vous savez le doser aussi aujourd'hui entre l'exigence parisienne hein, toujours vous savez ce côté unique hein, on cherche toujours à Paris on cherche toujours l'excellence voilà je cherchais le mot
Oui, tout à fait.
hein, et
Oui.
voilà mettre ce petit côté familier mais pas trop savoir le doser et bien évidemment rend encore plus humaine la prestation, vous voyez? Le
Oui.
rapport.
Alors là où j'ai été touchée, mais vraiment au plus profond de mon âme, et je vous parle vraiment le cœur sur les mains, c'est que des clientes ont laissé sur la page Facebook de l'Institut
Oui.
des commentaires où ils mentionnaient mon prénom. Parce qu'en général, quand on met un commentaire, on le met par rapport à l'institution, enfin à la maison. Et là, donc il y a eu un premier commentaire, un deuxième, un troisième, et tout ça s'était étalé sur un laps de temps, je vais dire, étiré. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le contenu des commentaires, le fait que ça m'était adressé personnellement, ça a été une récompense pour moi, ça a été
Oui,
une,
oui.
oui.
J'imagine.
Alors que les clientes ne le font pas systématiquement, disons que les gens vont facilement mettre un avis quand il est négatif. Mais aller mettre un avis positif, les gens le font pas nécessairement.
Et c'est un peu chic, cet institut, ou c'est
C'est du haut de gamme,
du haut de
ouais.
gamme, d'accord.
Ouais. Alors c'est du haut de gamme. Maintenant, aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai un projet personnel, donc
Oui.
après 4 ans, et je vais pouvoir développer ma propre activité professionnelle.
D'accord, super.
Oui.
Alors, j'aimerais bien savoir quel est votre sentiment, en tout cas, comment vous avez trouvé Paris aussi, vous qui êtes vous êtes d'origine musulmane,
Oui.
comment est-ce que vous avez trouvé les Parisiens? Parce que on les décrète souvent peu accueillants. Limite raciste. J'aimerais bien savoir comment vous
Alors moi, je
avez.
vais vous dire ce que j'ai vu de par mon expérience. Ils sont factuels. C'est les compétences. Tu t'appelles Fatima ou Samira ou Cécile, ça c'est second. Ça n'a pas d'importance. En fait, ton entretien d'embauche, quand tu passes ton entretien d'embauche, j'ai vraiment vu, et j'en ai passé pas mal, on fait complètement abstraction sur ta religion, de quelle origine tu es, ou de voilà de même du fait que je venais de Belgique, on n'a pas trop donné, enfin ça n'a pas vraiment
Ça n'a pas pesé dans la balance.
exactement. Paris, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire voilà, moi ce que j'attends de toi, c'est ça, c'est clair, c'est précis.
Oui.
Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu le fais, tu dois. Si tu dis que tu sais le faire, il faut que tu puisses le faire. Et puis, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué, en tout cas dans le domaine de l'esthétique et de la parfumerie, le manager ne doit pas toujours être derrière ton dos. C'est-à-dire que tu dois être autonome. Pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Avoir beaucoup de créativité. On doit pouvoir compter sur toi. Donc, tu dois être quelqu'un vraiment de fiable. À partir de là, tu peux très vite. Tu n'as même pas besoin de venir avec un bac plus 5. Tu peux intégrer une structure et puis, en étant dans la structure, devenir, au bout de quelques temps, bien sûr, en ayant fait ses preuves, tu peux gravir les échelons.
Ouais, tu peux
Et
évoluer. Tout est
ouais, et
permis.
exactement, à Bruxelles, t'as pas ça.
Ah bon?
Ouais,
Et
moi, je vous
pourquoi
parle
ça,
de
en
par mon
fait?
expérience.
Et pourquoi ça, en fait? Il n'y a pas ça à Bruxelles.
Ben déjà, le marché est quand même pas mal pris par les Flamands.
Oui.
Bon, les Flamands, ils sont clairs, ils vont pas chipoter avec toi. Ils ont déjà énormément d'a priori.
Oui.
Donc, si tu t'appelles Samira, bon, Samira, c'est déjà pas Fatima, hein, donc, bon, à la limite.
Enfin, pour les Flamands, quand même, Samira, c'est.
Mais Samira, c'est pas Anneke, c'est
Oui.
pas, voilà, c'est pas, tu t'appelles pas Vanals, quoi. Enfin, je veux dire, tu
Oui.
t'appelles Boualam. Il y a même un jour, on m'a demandé de, je me permets de donner mon nom de famille, j'ai aucun souci avec ça. On m'a dit, ne te fais pas appeler Boualam, fais-toi appeler Boilan. Je dis, mais pourquoi? Ben parce que ça a une connotation africaine.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que ça m'a. Encore une fois, on est dans le mensonge. On est dans la honte.
Oui, on est dans la honte.
Oui.
Et
Et.
j'étais en train de penser pendant que vous me parliez de ça, je pensais à tous ces reportages qu'il y a, alors qui est une réalité. Hein. Je me rappelle avoir tourné dans un centre aéré, en tout cas une MJC, dans les quartiers nord de Marseille. Mais avoir échangé avec voilà, des jeunes gens, ça allait de 10 ans à 17 ans, 18 ans. Ils écrivaient des chansons de rap. Et il y avait deux jeunes qui me disaient voilà, on est en études BTS ingénieur, BTS informatique. Et les deux seuls qui n'ont pas trouvé de stage, eh ben, c'est nous. Et c'était deux blacks, en fait, deux jeunes blacks. Et. J'étais en train de me demander voilà, quel regard vous portiez sur la France par rapport à ça, parce que c'est une réalité quand même dans certaines entreprises. Là, on parle de l'esthétique, on parle du haut de gamme, et on sait aujourd'hui combien la clientèle étrangère est importante dans le haut de gamme aussi en France. Hein. Lorsqu'on est d'origine marocaine, algérienne, voilà, en tout cas nord-africaine, on peut aussi correspondre aussi à une clientèle.
J'ai trouvé ça formidable. Honnêtement, j'ai trouvé ça grandiose. Néanmoins, je dois quand même dire que votre apparence physique, votre présentation,
Compte énormément.
elle doit être. C'est pas une question d'être beau
Non,
ou
il faut être
moche, hein.
impeccable.
Voilà, c'est ça. Donc, au niveau de votre, excusez-moi de le dire comme ça, mais au niveau de votre haleine, au niveau de votre votre présentation, voilà, l'hygiène, la façon dont vous vous mettez en valeur. Voilà, c'est ça.
Et puis
Votre posture.
il y a aussi quelque chose de très important dans ce que vous dites aujourd'hui. Et j'aimerais tellement que les plus jeunes qui nous écoutent ce soir, peut-être, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aussi souvent ont du mal à dormir et aiment bien comme ça se balader sur la bande FM et peut-être tombent sur nous. Voilà, j'aimerais qu'ils entendent que voilà, quand on se présente à un boulot, vous l'avez dit, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Il faut vraiment assumer voilà, d'être d'origine africaine noire, africain du Nord, mais avoir confiance en nos possibilités, avoir su évaluer nos possibilités et se dire qu'à un moment, ça rentrera de toute façon. Il ne peut en être autrement. Bien sûr, on pourra tomber sur des décideurs qui auront certains relents racistes, mais je suis persuadé qu'à partir du moment où on ne trimballe pas ce sentiment de honte parce qu'on vient des quartiers, mais que on affiche clairement nos certitudes, parce qu'il est question de certitude depuis le début de votre témoignage, certitude en la vérité, en ce que je suis, en ce que je suis capable de faire, eh bien, il y a dans ce pays, il reste beaucoup, beaucoup de décideurs qui détectent ça. Et ça, j'en suis par expérience, je le sais. Je me méfie toujours de vous savez, de ces reportages qu'on voit régulièrement sur le délit de sale gueule, le délit de prénom. Il existe, bien évidemment, on le sait. Mais je trouve que ces reportages, ils servent souvent à faire encore plus culpabiliser ces jeunes et à encore plus les installer dans cette situation de mal-aimer de la France, vous savez, de tous ces jeunes qui se sentent déjà biaisés, pour qui c'est biaisé. En fait,
Alors n'oubliez pas que dans l'autosabotage, on peut se trouver des excuses aussi.
mais c'est exactement de ça dont je parle, Samira. C'est, je pense que lorsqu'on a 18 ans, 19 ans, eh bien, Et puis c'est vraiment l'âge où on doit avoir confiance en nous, quoi. Il faut foncer parce que la France reste quand même un pays extrêmement dynamique, ou en tout cas il y a vraiment une force vive.
Il y a un élan.
D'adultes décideurs, de gens de, voilà, même des gens qui ont 70, 60 ans, qui sont à la tête d'entreprise et qui voient le monde bouger, qui savent évaluer aujourd'hui que notre France est un mélange de cultures et donc de richesses et qui croient. Et voilà, bon, j'ai tellement d'amis aujourd'hui qui viennent de partout, et notamment du Sénégal, d'Algérie, du Maroc, et qui sont tellement les preuves vivantes de ça. Parce que, voilà, à un moment, ne pas être dans la honte de ce qu'on est, ne pas dire
être
on m'a fait ça, on m'a pris pour ça. Non,
oui.
je suis là, je m'appelle comme ça, et j'existe. Voilà, je suis là.
Eh bien, en tout cas, je comprends pourquoi pas mal d'artistes belges sont venus à Paris.
Ah oui, parce que vous avez... Alors, des artistes belges, en plus, il y a un talent en Belgique incroyable. Et alors, pour le coup, les Français sont tellement... voilà, il y a une grosse maison de disques ici. En tout cas, il y a toute une industrie du disque qui fait que... Voilà, mais ça, les artistes belges qui sont venus en France, c'est parce que, voilà, on est un plus grand pays aussi. Donc, il y a un grand talent...
Il y a un accueil particulier.
Sans doute. Mais ça, vous pouvez mieux en parler que moi parce que je suis normand. C'est pour ça que je vous ai dit Évreux tout à l'heure. Mais je suis né dans une petite ville de province et j'ai su aussi, moi, petit bouseux d'Évreux, pas fils d'eux, hein, personne,
oui,
j'étais personne. Avoir confiance et gravir aussi les échelons et dire « je suis là, je m'appelle comme ça et je crois que je peux faire ça ». Et j'ai trouvé en face de moi des gens qui ont eu confiance en moi. Et le schéma, il se répercute comme ça.
Oui. Mais écoutez, en tout cas, je pense que tout le monde n'a pas le courage non plus de quitter une région
non, ça c'est sûr.
Pour Paris. Donc le fait de l'avoir fait et de l'avoir assumé et que ça ait fonctionné, je trouve que c'est déjà un indicateur. Mettre sur son CV une expérience professionnelle à Paris, même si c'est une mission, c'est aussi un cadeau que Paris vous fait, parce qu'avec avec cette mention sur votre CV, vous pouvez travailler partout dans le monde.
Oui.
Ça reste un... Voilà, ça reste...
Et puis moi, je pense à vos enfants, là, ce soir, aussi. Je pense à vos enfants à qui vous avez vraiment dû communiquer, en tout cas offrir quelque chose d'énorme. Hein, parce qu'aujourd'hui, une maman qui est à Paris, qui travaille à Paris, ça doit être aussi plaisant de pouvoir se dire, moi, je suis à Bruxelles, je vais à Bruxelles, mais je peux aller à Paris aussi voir maman quand je veux. Et c'est une sacrée... Je vous avoue vraiment avoir pris énormément de plaisir à converser avec vous, Samira.
Eh bien, c'est réciproque.
Et puis, malheureusement, cette libre antenne... touche à sa fin. Alors, je vous embrasse. Passez
D'accord.
une bonne nuit. Mille merci. Et n'hésitez pas à me rappeler.
Avec plaisir.
J'aurai grand plaisir. Et nos auditeurs, je suis sûr, ont eu grand plaisir à vous écouter ce soir.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Mille merci et portez-vous bien.
Vous aussi.
Au revoir.